Bienvenue au premier épisode en français de la série de podcasts d'UBS avec UBS Start Business. Je suis Anne-Caroline Dunphy et je me trouve aujourd'hui avec Sheldon Jacquet et Pablo Charoski, tous deux diplômés de l'école hôtelière de Lausanne et fondateurs de la société Siradis, qui est une plateforme de distribution spécialisée dans les produits alimentaires naturels et innovants. Nous avons également avec nous Noor Sharkey, qui a commencé sa carrière chez UBS au sein de la gestion de fortune pour reprendre en 2019 les rênes de l'équipe de prospection et développement de la Digital Corporate Bank pour la région Romandie et la région Tessin. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour parler entre autres création d'entreprise, business plan, financement, mais aussi pour parler de la plateforme UBS Start Business qui est destinée aux créateurs d'entreprises et qui est à la disposition de tous ceux qui se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat. En effet, grâce à sa large gamme de prestations et à la solidité de ses partenariats, UBS Start Business est en mesure de répondre à tous les besoins et cela en 6 étapes. Je propose que nous commençons directement avec la première question. Une question, on va dire, de base, on va parler du modèle d'affaires. Pablo, je commence peut-être avec toi.
Volontiers.
Est-ce que tu veux nous parler un petit peu du modèle d'affaires de Siradis, de votre business plan, parce que j'imagine qu'il y a un business plan, et qu'est-ce qui a fait le succès de ce business plan ?
Alors, je commencerai en citant un livre que je suis en train de lire en ce moment qui dit « Don't waste your time on bullshit business plans ». Plus sérieusement, le business plan, c'est effectivement quelque chose qu'il faut avoir. Mais ça doit être plutôt pris comme un document qui, au tenté, donne les grandes lignes et les objectifs, une stratégie générale, une direction générale. Ce qui fait le succès d'un business plan, c'est qu'il soit justement le moins rigide possible, que ce soit un document qui soit itératif et puis qui évolue un petit peu au fur et à mesure du temps, en fonction de l'entreprise, des besoins internes, mais aussi de l'évolution du marché et de la situation économique qui, on l'a vu récemment, peut évoluer très 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 vite. Je pense que peut-être un conseil, l'erreur peut-être du business plan ou c'est de vouloir faire quelque chose de trop détaillé, de trop poussé, et de vouloir s'en servir presque comme une recette, un mode d'emploi qu'on suit à la ligne. Le risque quand on fait ça, c'est que très vite, on soit un petit peu décorrélé de la réalité. Ça peut aussi, en quelque sorte, limiter l'innovation et puis l'entrepreneuriat, l'esprit en fait, d'initiative qu'il peut y avoir à l'interne dans une entreprise. Le business plan, c'est plus quelque chose qui doit s'apparenter à une Bible avec plein d'interprétations possibles.
Qui évolue au fil du temps, en fait.
Qui évolue au fil du temps. Je crois que vraiment, le principal, c'est de ne pas rester bloqué dans ce qu'on avait prévu au début. Si on prend le cas de Siradis, on a un business plan qu'on a fait juste avant de fonder la société, qui aujourd'hui a des années-lumière de la réalité de ce qu'on fait. Et du coup, c'est justement, on l'a retrouvé du coup en préparant le meeting. Et c'est vrai qu'il y a, je dirais, 0,5% de ce qu'il y avait dedans qui est aujourd'hui une réalité de Siradis. Donc voilà, le principal, c'est d'avoir quelque chose,
une base
qui permet un petit peu de donner les grandes lignes, d'expliquer ce qu'on fait, de se projeter aussi, parce que ça donne quand même une bonne information sur le futur et sur la vision de ce qu'on veut amener. Mais il faut surtout éviter d'y coller de trop près parce que très vite, ça peut être complètement en décalage et contre-productif.
Alors, bien sûr, quand on veut créer une entreprise, il faut qu'il y ait une idée, il faut qu'il y ait un clic, un déclic, il faut avoir l'idée. Comment ça s'est passé pour vous, Siradis? Ça vient d'où? Qui est l'initiateur de cette entreprise?
Alors, chez nous, tout a commencé avec une très mauvaise idée. En fait, on était encore étudiants et puis avec des amis d'école, on a eu la possibilité, on a eu l'opportunité, ou en tout cas on le croyait, de développer la distribution d'une marque pour la Suisse dans l'alimentaire. C'est des jus de fruits. Et en gros, on s'est dit, c'est génial, cette marque elle est distribuée dans plein de pays dans le monde. Nous, on va prendre la distribution pour la Suisse et on va vendre des milliers de palettes. Du coup, on a commencé comme ça, sans vraiment se poser la question du marché, des besoins, etc. Donc, oui, c'est bien d'avoir une idée.
C'est pas suffisant.
Mais c'est pas suffisant. Il faut une bonne idée. Et du coup, nous, on a commencé comme ça. On a fondé la société. On a acheté 6000 bouteilles de jus de fruits qu'on a stockées dans le garage des parents de Sheldon. Et ensuite, on s'est dit, bon, maintenant, il faut les vendre. Donc, ça a commencé comme ça. Autant vous dire qu'on a bu et donné beaucoup de jus de fruits les deux années qui ont suivi parce que parce qu'en fait, on s'est lancé, comme on le disait, sur une mauvaise idée. Il n'y avait pas de besoin de marché. On connaissait rien du tout. On n'avait aucune idée des marges à appliquer, des besoins de nos clients, de la concurrence. Mais en fait, le fait de commencer avec cette très mauvaise idée et d'être un petit peu têtu, il faut l'admettre, ça fait que, au fur et à mesure, on a compris ce dont le marché avait besoin. Donc nous, on a travaillé un petit peu à l'envers. On est arrivé sur le marché avec une très mauvaise idée, un produit pas adapté et aucune compétence. Et on s'est vraiment formé sur le tas pendant les deux premières années. Et ça nous a permis, derrière, en fait, en étant acteur dans le marché, de comprendre justement les tenants et les aboutissants, les besoins, la concurrence, et d'identifier justement le manque, le problème sur le marché, qui était qu'aucune entreprise de distribution, et notamment dans l'alimentaire, avait vraiment pour vocation d'amener des produits qui étaient naturels, qui étaient innovants, avec un côté ludique, avec un côté fun. Et du coup, ça nous a permis de très rapidement prendre pas mal de place sur le marché. Alors que sur les deux premières années, quand on n'était pas du tout market fit, on n'a rien vendu.
Et du coup, ouais, le key learning, c'est que l'idée a pas forcément besoin d'être une idée de génie. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Est-ce que je vais me lancer ? J'aimerais bien, mais bon, c'est sûr que quelqu'un d'autre l'aura fait avant moi. » Ou alors, j'ai pas un développement tech qui est une innovation de rupture. Je vais pas faire la nouvelle Tesla, donc je me lance pas. Je pense qu'on peut développer des affaires parfaitement rentables et avec des belles courbes de croissance sans réinventer la poudre. On peut amener des innovations incrémentales à des modèles d'affaires existants et en faire des success stories.
Ce que je trouve extraordinaire, c'est un bébé. Un bébé, il a de toute façon viscéralement envie de marcher à un moment ou à un autre. Donc, il ne va pas se poser la question « Ah, est-ce que je vais tomber ?» Il ne sait même pas qu'il va tomber. Il y va et puis, bon, bah, il va se cogner une ou deux fois. Bah, il saura qu'il ne faut pas trop s'approcher d'un obstacle, qu'il peut se tenir à une table, que ses parents vont le coacher un peu. Donc, on se pose pas de questions et je comprends tout à fait ce côté où les tribes disent allez on y va, on essaye, bon ben si on tombe ben je saurai ce que ça veut dire tomber et je saurai ce que ça veut dire me relever. Bon, peut-être pas tomber sur un gros caillou, mais je pense qu'il faut y aller. Il y a aussi une autre possibilité qu'on offre, hein, c'est la transmission d'entreprise. Donc, si vous avez vraiment envie de devenir indépendant, d'avoir votre business, que vous avez les moyens, que vous avez eu déjà peut-être une expérience précédente, que vous avez déjà vendu une entreprise et vous dites tiens je veux passer à autre chose, j'ai les reins suffisamment solides, je m'y connais. Nous avons une plateforme qui est assez unique, c'est la possibilité de transmission d'entreprise à partir de 5 millions. Chose qui est, comme je l'ai dit, assez unique en Suisse parce que souvent, les banques s'intéressent à des transactions qui sont bien plus coûteuses. Mais nous, on offre ça. Donc, si vous avez l'habitude de travailler dans la vente de jus de fruits et... et que vous venez de transmettre une entreprise qui vendait des chocolats, nous, on aurait peut-être un Siradis bis qui vend des jus de fruits et qui est rentable et qui a envie d'être transmise. Donc oui, venez nous voir, c'est quelque chose qu'on propose.
D'accord, ok. Quand on parle business plan, automatiquement, on pense au côté financier. Ça fait partie de la chose et on ne peut pas faire sans. Donc, quand on parle de planification financière, parce qu'on doit en parler, qu'est-ce qui fait le succès de la planification financière? Comment est-ce qu'on peut faire au mieux? Peut-être que Nord, c'est toi la personne la plus à même de nous répondre à cette question.
Merci. J'ai presque envie de continuer sur la lancée de Pablo. Effectivement, il est nécessaire d'avoir un plan financier. on dit entre 3 et 5 ans, en partant avec les dépenses nécessaires et utiles pour déjà pour démarrer, sachant qu'à un moment donné, on va se rendre compte peut-être que vaut mieux commencer avec une mobylette qu'avec une camionnette, comme vous, on le voit bien sur votre présentation. Peut-être commencer à travailler depuis la maison et ne pas avoir une dépense inutile avec des bureaux, passer sur un coworking éventuellement selon les besoins. Donc même un plan financier peut bouger. Tout à coup, on va se rendre compte que notre produit fonctionne. Et là, on va s'ajuster. On ne va pas rester bloqué sur les économies du départ pour dire « Ah non, j'ai prévu justement de vendre que 3 barres de chocolat et s'il y en a une cinquième qui se vend, non, c'est trop. » Donc, c'est également quelque chose de vivant, être le plus prévoyant possible. Mais ne pas rester bloqué sur des chiffres qui, à un moment donné, ne font plus de sens. Ce qui m'intéresse, surtout dans le cas d'entreprises qui sont disruptives, ce qu'on appelle des startups, c'est de savoir, par exemple, chez vous, à quel moment vous avez commencé à avoir un CFO. Parce que souvent, dans les rencontres que j'ai faites, ça, c'était un point auquel beaucoup d'entrepreneurs ne pensent pas au départ. Donc, c'est très important d'avoir un CFO, même à mi-temps au début, qui vous guide dans ce chemin-là. Et j'aimerais savoir, vous, comment ça s'est passé pour vous?
Alors, nous, on a un CFO qui est là en tant que conseiller. Après, la fonction de CFO, à proprement dit, à ce jour, elle est surtout endossée par Pablo, ouais. Chez Siradis.
J'ai la chance en fait d'avoir, à la suite de mes études à l'école hôtelière, travaillé comme assistant pendant un an et demi pour les professeurs de finances d'entreprise. Et du coup là, ça m'a donné une année et demie. On avait déjà le projet justement de Siradis qui était plus ou moins en cours. Et du coup, ça m'a permis moi d'emmagasiner beaucoup d'informations et pas mal de knowledge justement sur ce qu'il allait falloir mettre en place pour pouvoir justement jongler avec ces besoins-là. De planification financière. Et puis, on a la chance, nous, dans notre business model, d'avoir un CAPEX qui est relativement restreint, puisqu'on a peu de... Pour l'instant, on a eu peu d'investissements initiaux en R&D, en installation, en matériel, en immobilier. Et donc, nous, ça nous a permis de travailler beaucoup sur des questions de cash flow plus que d'investissement et de rentabilité à court moyen terme.
C'est très intéressant. Le cash flow, justement pour une entreprise, est un sujet très sensible. Et avoir un liquidity cockpit qui permet tout au long de l'année de prévoir ou avoir une vision globale sur les entrées, les sorties. C'est aussi intéressant lorsque, je ne sais pas si vous êtes déjà à l'international, mais de pouvoir gérer les risques de change. Ce sont des sujets importants. Je le dis dans cette interview parce que j'ai envie que les auditeurs prennent conscience en tant que jeunes entrepreneurs de certains points auxquels ils n'auraient jamais pensé. Parce qu'on le voit dans les rencontres qu'on fait. Donc, j'insiste dessus. Vraiment, pensez à ces points. N'hésitez pas à en discuter avec votre conseiller financier ou votre banquier qui clairement, est à même de pouvoir déjà y répondre.
Alors moi, il y a autre chose qui m'intrigue, c'est l'équipe fondatrice en tant que telle. Parce que là, on vous a en face de nous et on vous sent déjà bien, bien différent. On a l'impression que vous vous complétez. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir dans une équipe fondatrice pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que chacun d'entre vous apporte à Siradis qui fait que ça marche?
Alors, on en parlait juste avant. Avant tout, une start-up, c'est une aventure humaine. Qu'on soit dans un secteur de haute technologie, d'industrie, ou de commerce, c'est une aventure humaine. Et donc, le fait que c'est une aventure humaine peut être sa plus grande key success factor, tout comme ça peut être une des raisons principales de l'échec de la startup, D'ailleurs, le taux de mortalité des startups, on regardait tout à l'heure, le premier point d'échec des startups, c'est le manque de marché ou un produit ou un service incorrect. Et puis le deuxième, ça va être un problème au niveau de la complémentarité de l'équipe. Et puis c'est une complémentarité qu'il faut avoir tant au niveau des soft skills que des hard skills. Bien sûr, bah, Pablo est bien plus à l'aise, il se balade dans des fichiers Excel, dans de la gestion opérationnelle, de manière bien plus à l'aise que moi, alors que mon terrain de jeu, ça va être plutôt le développement des affaires et puis le marketing et les ventes. Donc c'est vraiment cette complémentarité qui est au cœur du succès de l'entreprise. Comme on disait, bah, c'est une aventure humaine. Il faut que les fondateurs aussi aient une entente qui pose un cadre agréable pour les membres d'équipage qui vont nous rejoindre à court, moyen et long terme. Parce que les gens qui postulent dans une start-up, ils sont là pour le job, bien sûr, mais ils sont aussi là pour l'aventure humaine. C'est pas facile. Il peut y avoir des moments très, très, très agréables et des moments extrêmement difficiles, tant pour l'équipe fondatrice que pour les employés. Donc, je retiendrai vraiment cette complémentarité. Je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose, Pablo.
Ouais, je rajouterais aussi la communication. On disait, quand on fonde une entreprise, on se met un petit peu en couple avec son ou ses associés. C'est des gens qu'on va fréquenter et voir probablement, et même très souvent, plus que nos propres conjoints. Et c'est vrai qu'avoir une communication qui est transparente, pas avoir peur de mettre l'autre un petit peu en face de ses défauts, aussi bien que de ses qualités, mais réussir à désamorcer très rapidement les tensions et des frustrations qui peuvent apparaître, c'est très important. On le disait justement tout à l'heure, c'est que quand on se voit toute la journée, quand on a des choses comme ça, des tensions qui peuvent survenir dans l'équipe dirigeante, elles se répercutent très 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 vite sur le reste des employés. Et c'est important de créer une dynamique de travail qui est positive et dans laquelle on se tire vers le haut plutôt que de travailler de son côté. Et souvent, la complémentarité et les différences sont hyper importantes justement pour cet équilibre-là. Mais il faut réussir à retrouver cette vision commune, aussi bien au niveau des objectifs que de la façon d'y parvenir. Et après, chacun fait son boulot.
Et d'ailleurs, statistiquement, on parle d'équipe parce que je crois que statistiquement, on a plus de chances de réussir, de passer les premières années de la fondation d'une entreprise quand on est plusieurs, versus une startup qui serait fondée par un fondateur unique. De par cette complémentarité qu'on peut avoir en étant plusieurs, pour aller de l'avant. Et puis, je rajouterais aussi que dans tout ce qui est atmosphère au travail, c'est important de pouvoir célébrer chaque petite victoire. On le fait tout le temps. C'est quelque chose qu'on a vraiment ancré dans l'ADN de Siradis. Chaque petite victoire, chaque nouveau client, chaque appel d'offres qui aboutit, on le célèbre en tant qu'équipe, autant les fondateurs que les employés. Et puis ça contribue vraiment au bon déroulement des journées.
Donc l'esprit d'équipe, la complémentarité, la communication, c'est vraiment les points importants qui peuvent faire qui devraient faire en tout cas le succès d'une nouvelle entreprise. D'accord. Je reviens peut-être plus au côté financier, peut-être au point de départ, en fait, la phase qu'on appelle seed en bon français, la phase de lancement. Nord, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport aux formes de financement qui peuvent exister à ce stade, donc lors de la création? L'entreprise n'existe même pas, mais il faut commencer à se préoccuper du côté financier. Alors, vaste sujet. Hein.
Non, surtout au début, on dit que c'est les FFF qui vont aider à faire démarrer une jeune entreprise. Les FFF, c'est les Family, Friends and Fools, parce qu'ils partent avec le rêve de voir cette jeune entreprise devenir une star. Mais et ça marche, hein, souvent ça marche. Ce qui est très important à ce moment-là, c'est aussi, on parle également de crowdfunding par exemple, c'est de faire attention au nombre de personnes qui investissent dans un projet ou une entreprise. Pas que ça se perde, pas que vous ayez à devoir plutôt vous occuper de ceux qui ont mis, quel que soit le montant, mais qui en est trop à gérer. Et ça, même si ça peut être intéressant, ça peut apporter des fonds, faites attention avec le nombre d'investisseurs de départ. Trouver un business angel, c'est quelque chose qui peut contribuer. C'est également avoir quelqu'un qui se porte garant pour vous et lever un crédit à ce moment-là. C'est ce qu'on peut faire de mieux au moment vraiment du démarrage. Il n'y a pas de recette miracle.
Alors là, j'ai juste envie de rebondir, c'est sur les investisseurs. J'ai cru comprendre, vous me coupez si c'est pas juste. Vous êtes à l'heure actuelle à la recherche d'investisseurs. Est-ce que c'est correct?
C'est correct, oui.
Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous les sélectionnez? Quelle est votre approche par rapport à ça?
Alors, je commencerai peut-être par dire, on a la chance d'être arrivé déjà à un stade de développement, sans faire de première levée de fonds. Donc, on a vraiment bootstrappé pendant les deux premières années.
Je m'excuse, bootstrapper.
C'est en fait sans financement, sans investissement initial, en fait. Et du coup, ça nous a permis de poser les bases du business, de montrer qu'on est une entreprise viable. On a été break-even l'année passée. Donc, on arrive à un stade aujourd'hui de maturité où le business plan, où les projets, où la viabilité du projet n'est plus vraiment approuvée, ce qui fait aujourd'hui l'attrait justement de Sierradis. On a gardé une très belle croissance, mais on est arrivé justement à ce stade où on a pas mal en fait de propositions d'investissement qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose d'assez gratifiant, d'assez intéressant. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, le casse-tête, il est plus au niveau de la décision et puis de l'évaluation du profil un petit peu d'investisseurs qui peuvent rentrer dans une entreprise. Il y a bien sûr le côté capital. Combien est-ce que la personne ou l'entité, parce qu'on parle d'investisseurs, ça peut aussi être d'autres entreprises, ça peut être des fonds. Quelles sont les capacités financières de l'entité qui veut injecter? Est-ce qu'il ou elle est capable aussi de suivre sur des rounds futurs? Parce qu'il y a des fois, surtout dans des premières phases de levée de fonds, des gens qui disent « Ah oui, tout de suite, si c'est des petits montants, des privés qui veulent vouloir mettre une partie de leurs économies, des choses comme ça, mais qui pourront, il y a de très faibles chances qu'ils soient capables de suivre sur un deuxième tour, sur un troisième tour d'investissement. » Qui doivent avoir lieu en fonction un petit peu de l'évolution. Et puis, il y a ce côté financier, ces capacités financières, et puis il y a les compétences et le réseau qu'un investisseur peut amener également à une équipe fondatrice. Et là, la question se pose, à partir du moment où il y a des compétences et du réseau qui sont amenés, de l'investissement, non pas au niveau financier, mais au niveau humain, et dans le déroulement, on va dire, de l'entreprise et du projet. Est-ce que la personne qui est là justement pour amener des compétences supplémentaires, est-ce qu'elle veut une place au board de l'entreprise, oui ou non? Est-ce qu'elle entend s'engager un petit peu dans les décisions qui sont des fois d'un niveau stratégique et puis des fois un petit peu en dessous aussi? Dans quelle mesure elle va être impliquée dans le day-to-day finalement de la boîte? Est-ce que c'est quelqu'un qui va falloir rendre des comptes une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, une fois toutes les semaines? Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Sur lesquels il faut être très clair dès le début, parce que des fois on amène quelqu'un à l'interne qui nous dit oui, moi je vais vous amener un réseau, etc., mais je reste un petit peu à l'extérieur, et puis on se rend compte quelques mois ou une année plus tard que en fait c'est une personne qui commence à prendre une part prépondérante dans le déroulement des affaires, on va dire quotidiennes, des affaires courantes, et ça peut créer des déséquilibres, au sein de l'équipe dirigeante. C'est quelque chose qui arrive régulièrement. On peut avoir une équipe qui fonctionne bien, où elle est bien rodée, où la communication se passe bien, et puis tout d'un coup, on met une troisième roue au carrosse, et puis là, ça peut coincer, ça peut créer finalement des tensions qui n'avaient pas lieu d'être plus tôt, avant l'investissement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut envisager, et puis laquelle il faut faire un petit peu attention. Il y a des questions de conflit d'intérêts aussi. Typiquement, si on fait investir des business partners dans le projet, ça peut être un fournisseur, ça peut être un client, ça peut être une entreprise du même secteur. À quel moment est-ce que les intérêts de l'investisseur vont prendre le pas sur les intérêts de l'entreprise elle-même? Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut garder en tête. Il peut y avoir des synergies qui sont super intéressantes, bien sûr. Mais tout d'un coup, on peut se retrouver dans des situations où la décision est plus prise de façon complètement cohérente avec le but de l'entreprise en elle-même, mais des stakeholders qui font partie du board ou bien des actionnaires.
Parce qu'à nouveau, c'est un mariage, aussi bien le mariage entre associés qui sont fondateurs de la société, il est important, mais le mariage, on peut préciser que c'est un mariage extra-conjugal avec les futurs stakeholders, il est hyper important.
Et Nord, selon toi, comment est-ce que la banque peut aider lors de cette phase qui est très intéressante, mais qui est pas facile, autant sur le plan humain que sur tous les autres plans?
Alors, il y a plusieurs choses qui ont été mentionnées. Il y a plusieurs étapes auxquelles nous pouvons participer. Alors, une banque, par essence, va entrer en matière lorsque une structure est capable de montrer une activité de 2 ans minimum. Et à partir de ces 2 ans, il faut aussi prouver qu'il y a des ventes qui se font. Peut-être pas être forcément déjà au niveau des profits, mais au moins avec une possibilité d'arriver à ces profits dans les 12 mois. Et là, on est capable de rentrer en considération par rapport notamment à un crédit. Il y a aussi d'autres choses qui se font, en tout cas chez UBS. Nous travaillons en partenariat avec le Swiss Economic Forum. Donc, une jeune entreprise peut s'inscrire chez le Swiss Economic Forum, qui vont étudier son dossier et qui vont dire oui ou non, cette entreprise est éligible et on va l'accompagner en coaching pendant 6 mois. Si l'entreprise arrive à obtenir ce Saint Graal, dans ce cas, cette entreprise est également éligible à ce qu'elle soit présentée à ce que nous appelons chez nous dans notre jargon le PIC, c'est le Private Investor Circle. Et on va présenter cette entreprise à nos clients privés qui auront envie de investir directement dans l'entreprise, et là se fera le travail. Est-ce que on prend cet investisseur ou pas? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on va s'entendre avec, etc. Bien sûr, il y a, comme je voulais mentionner, donc avec la possibilité d'un crédit, il y a la possibilité d'un crédit avec un cautionnement. Des organismes se portent caution pour soutenir cette entreprise. Donc là, vraiment au début, on est plus sur ce type de soutien financier. Après, je peux vous parler des possibilités qu'offre notre start business, dans le sens où lorsque vous créez votre entreprise, il y a tout un biotope auquel vous pouvez accéder via la plateforme, et qui vous permettra, par exemple, d'économiser sur les frais bancaires, sur les frais de création de l'entreprise, sur une place dans un coworking, sur du coaching, tant par votre conseiller à la banque, mais également via des organismes tels que la Startup Academy.
Peut-être pas dans la même, plus ou moins dans la même lancée. Les formes juridiques, on sait qu'en Suisse, on doit faire des choix. Quelles sont les formes juridiques existantes? Quelles sont les plus adaptées aux startups? Comment est-ce que ça fonctionne?
Alors, il y a plusieurs formes juridiques, mais les plus communes, c'est la raison individuelle, la SARL et la SA. On choisit, on va dire, la forme juridique selon les besoins. On ne va pas dire « Ah non, je choisis celle-là parce que c'est la plus prestigieuse ». Non, on va la choisir selon les besoins et selon les fonds dont on a à disposition. Voilà. Parce qu'à un moment donné, on peut changer de forme juridique. Et là, ce que j'aurais envie de dire, c'est comment pourquoi vous avez choisi telle forme, et pas une autre, quels étaient les besoins?
Exact. Alors bon, Déjà, je rajouterais aussi que la vision à court et moyen terme va aussi dicter un petit peu le choix de la forme juridique, parce que bien entendu, si notre plan de croissance prévoit un développement qui va nécessiter beaucoup de capitaux, et il faudrait se tourner tout de suite vers une société anonyme qui va permettre et qui va être un bon véhicule pour effectuer une levée de fonds 1, 2 et 3, si c'est nécessaire, puis surtout si c'est le souhait des fondateurs à la base. Chaque forme juridique offre un petit peu des avantages et des inconvénients. Dans notre cas, le choix s'est porté sur une SARL parce que c'était une question de simplicité. La SARL présente une structure un petit peu moins lourde au niveau administratif. Et puis, bien entendu, c'était une question financière aussi quand on a commencé. Le capital à libérer est quand même inférieur et puis il permet un lancement plus rapide.
Je rajouterais que la SARL, c'est pour nous, ça s'est vraiment présenté aussi comme une entreprise qui est relativement bon marché, hein, comme on le disait, à créer. Et puis, ça permet de tester le marché, de tester le produit, finalement, de se faire un petit peu les dents aussi dans un premier temps, avant de, comme le mentionnait Nour, la possibilité de passer en SA ou de changer justement de forme de façon à lever des fonds. Il faut savoir que la SA, ben, comme son nom l'indique, garantit aussi l'anonymat des actionnaires, ce qui n'est pas forcément le cas dans une, ce qui n'est pas le cas dans une SARL. Et puis, là, il y a aussi une structure, on va dire, de capital action qui est beaucoup plus souple dans la SA. On peut émettre des actions avec différents droits et avec différents droits, des droits de vote, des choses comme ça. Ce qui n'est pas le cas dans la SARL où c'est des parts sociales et où, du coup, à ce titre-là, les actionnaires, enfin, les gens qui possèdent des parts sociales sont plus ou moins tous logés à la même enseigne.
J'aime bien cette idée de pouvoir avoir le choix de tester, justement. Et c'est d'où ça me ramène à ce qu'on a dit au début, que ce soit le business plan ou le plan financier. Ça, c'est la preuve typique de on va utiliser la forme la plus simple, celle qui nous convient le mieux au début, et ensuite ajuster à fur et à mesure des circonstances et des possibilités. Et je recommanderais presque à tout le monde de faire la même chose. Vraiment, ça donne, parce que ce n'est pas un frein. Il faut pas prendre la forme juridique, par exemple, comme un frein à la création parce que j'ai pas les 100 000 à déposer au début pour une SA.
Non, parce que ça évolue, parce qu'on
Oui,
peut
parce que ça
changer
évolue et
la forme.
rien n'est
Rien n'est
enfin,
figé, en fait.
rien n'est
Rien n'est figé.
figé, exactement. C'est sa vie, ça évolue, les rencontres, les possibilités, qu'est-ce que la banque peut faire aujourd'hui? Peut-être que demain, même la banque pourra commencer à avancer des fonds avec plus de facilité. Tout est possible.
Et puis, pourquoi ne pas commencer? Alors, pourquoi nous, on n'a pas commencé en raison individuelle? C'est simplement une question de, ben voilà, c'est une question de sécurité aussi. La raison individuelle, c'est très bien quand on offre un service, quand on est un indépendant, vraiment, où on va travailler et se faire rémunérer pour des heures. À partir du moment où il y a des sommes relativement, enfin, qui peuvent être considérables, hein, qui rentrent en jeu, c'est quand même beaucoup plus confortable d'être protégé par une entité juridique qui est entre nous. Et le développement, disons.
Il y a autre chose qui m'intrigue encore. Siradis, le nom, pourquoi? Expliquez-nous. Sheldon,
Alors, à
Pablo.
nouveau, tout comme le business plan, ça a beaucoup changé entre le moment où on a décidé de nommer la société Siradis et ce qu'on fait aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait choisi Siradis parce que ça voulait dire sélection et importation de raretés pour la distribution. Ça fonctionnait aussi bien en anglais qu'en français. Donc, selection and import of rarities for distribution. À savoir qu'aujourd'hui, on est relativement loin de cette idée de base, mais on avait fait un petit peu de reverse engineering. On s'était dit, ah, qu'est-ce qu'on fait là? On est en train d'importer des produits, ils sont rares, et puis on les distribue. Ok, on va reverse engineer notre nom de société.
Ouais. Il faut dire aussi qu'on a lancé la société un petit peu sur un coup de tête, hein. On a eu une opportunité, il fallait avoir une structure juridique, il fallait avoir une boîte pour se lancer. Et nous, on avait envie de le faire. On savait pas exactement ce qu'on allait faire, mais on avait envie de le faire. Et du coup, on avait un autre nom en tête qui était déjà pris, et puis on s'est dit, bon, bah, on était chez le notaire, et puis on avait rendez-vous le lendemain, il fallait absolument...
Il fallait donner quelque chose.
Et on s'est posé longtemps la question de savoir si on voulait changer le nom, changer d'identité, et finalement, on s'est dit, we're going to own it, on va l'assumer, c'est nous, c'est un petit peu... C'est un petit peu ce qu'on disait au début, par rapport à l'atmosphère et par rapport à l'ambiance et aux valeurs un petit peu de la société qu'on crée. On s'est dit, ben voilà, nous on est comme ça, on a fait le truc, on l'a pris sur un coup de tête, on va pas le changer. Les gens s'y sont habitués. Et puis finalement, on est très contents comme ça.
Mais pourquoi est-ce que vous auriez envie de le changer de toute façon? Il est assez porteur. C'est un nom assez porteur, facile à prononcer.
Ouais. On se souvient, il sonne bien.
Il y a le mot radis dedans.
Il fonctionne en suisse allemand aussi, chose qui est impérative et indispensable quand on veut lancer une société en Suisse. Attention au multilinguisme, mais pas que le nom soit interprété d'une manière X dans la région tessinoise et Y en région...
Ou difficile à prononcer pour un germanophone.
Il n'a pas de signification douteuse.
Douteuse ou tordue, exact.
Et c'est vrai que du coup, dans notre naïveté, on a eu pas mal de chance. Maintenant, s'il y avait deux, trois conseils, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est que ça fonctionne dans plusieurs langues, que ce soit facile à dire, à prononcer, et puis que ça marque, qu'il n'y ait pas, ben, comme disait nous, de signification douteuse. Ça, c'est vrai que ça fait partie un petit peu des prérequis.
D'accord. Alors là, on a beaucoup discuté, donné beaucoup d'éléments, mais maintenant, concrètement, si on doit nommer les étapes pour créer sa propre entreprise, en quelques mots, quelques phrases, Pablo, est-ce que tu arrives à nous faire un tableau résumé des
étapes? Oui, bien sûr. Alors, on a la chance en Suisse, c'est assez simple, en fait. C'est assez simple et c'est relativement peu coûteux de se lancer. Alors, le business plan, c'est bien de l'avoir, mais ce n'est pas obligatoire. Le financement, ça va dépendre de la forme juridique qu'on veut adopter. Je dirais que dans le cas de la SARL, de façon relativement concrète, il faut avoir 20 000 francs, il faut avoir les liquidités qu'on va devoir mettre sur le compte de consignation. Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Il faut grosso modo travailler sur des statuts, les statuts de l'entreprise, des statuts qui sont juridiques, qui sont requis légalement. Pour ceci, le notaire avec lequel on va travailler peut proposer des statuts qui sont déjà existants. Il y a plusieurs plateformes aussi en ligne aujourd'hui qui permettent d'accompagner les entrepreneurs sur cette phase-là. Et puis, il faut, pour une SARL ou une SA, passer devant le notaire, valider les statuts. C'est un petit peu long, mais ça va. Et puis, ensuite de ça, il y a l'inscription au registre du commerce qui est en général aussi faite par le notaire. Et puis on est bon pour y aller, à savoir s'il faut encore s'inscrire ou pas à la TVA, mais c'est relativement facile et le cadre est suffisamment bien fait, il y a suffisamment de ressources pour éviter de se planter. C'est une phase sur laquelle on est tout de suite très accompagné parce que c'est des choses qui sont pour une structure standard. Après, bien sûr, s'il y a des statuts spéciaux à prévoir suivant la complexité, on va dire, de l'entreprise qu'on veut fonder, ça peut devenir plus ou moins coûteux, ça peut devenir plus ou moins contraignant, mais on va dire que pour avoir une coquille vide, c'est relativement facile et bon marché.
J'ajouterais aussi peut-être le plan d'actionnaire, enfin pacte d'actionnaire ou d'associé, qui va dicter aussi les grandes lignes des relations entre les différentes parties prenantes. C'est un document qui n'est pas légalement requis, mais qui a une importance franchement assez crucial pour le bon fonctionnement et la bonne entente de tout le monde.